Bon matin. Je suis content d'être avec vous ce matin. Hein, je suis particulièrement content d'être avec la famille ce matin, n'est-ce pas? C'est bon. J'aimerais ça souhaiter bienvenue aux nouveaux, ceux qui sont en visite parmi nous ce matin. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Bienvenue dans la belle région de l'Outaouais. J'ai le privilège de faire un petit peu le tour du Québec au fil des années. Et puis l'Outaouais, c'est vraiment une belle région. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est une super belle région, l'Outaouais. C'est comme la ville et la campagne en même temps. C'est vraiment une belle région. J'aimerais aussi dire bonjour à ceux qui sont sur l'Internet. C'est comme nouveau, ça. T'sais, avant, tu arrivais, tu disais bonjour à l'Assemblée, puis... Là, l'Internet, en tout cas, tu sais, ça l'ajoute, là. Alors, on aimerait le souhaiter aussi la bienvenue. Mon épouse n'est pas avec moi ce matin, mais il semble que je m'entends aussi. Hein, je m'entends. Pardon? C'est bon, OK, parfait. Je vais m'habituer, j'imagine? Alors, c'est bon. Alors, je vous disais que mon épouse n'est pas avec moi ce matin, et puis ça fait bizarre parce que c'est... Je me rappelle pas, mais en tout cas, c'est assez loin que quand j'ai l'occasion d'enseigner la parole, que mon épouse n'est pas avec moi, parce que c'est comme toujours le petit coin d'encouragement avant que j'embarque, le petit coup sur le genou, j'ai prié pour toi. Mais je suis sûr qu'elle a prié pour moi au Nouveau-Brunswick, c'est parce que je ne pouvais pas y aller, être allé voir sa famille. Cette année, trop de choses en ville, l'école et tout ça, là, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas y aller, mais... C'est ça. Puis ma femme est acadienne aussi. Donc, quand, je ne sais pas s'il y en a qui vont marier une acadienne à un moment donné, là, sur le contrat de mariage, là, il y a juste une phrase. Une fois par année, je descends au Nouveau-Brunswick. C'est vrai, hein? Une fois par année, je descends au Nouveau-Brunswick. Tu sais, ils sont à peu près 5 000 à Tracadie-Chaila, puis l'été, ça tombe à 50 000. Tu sais, j'exagère un petit peu à peine. Alors, c'est ça. Une fois par année, ça fait 28 ans qu'on est mariés. J'ai été là 25 fois. Mais c'est dans le contrat de mariage. C'est juste ça qu'il y avait. Puis je remercie Dieu, c'est juste ça qu'il y avait aussi. Alors, c'est ça. Je vais vous inviter ce matin à ouvrir vos Bibles. Dans Genèse, chapitre 16, le verset 1 à 16. On va lire ça ensemble ce matin. Genèse, et voilà. Genèse, j'aimerais remercier Dina et Kétian qui ont fait mon PowerPoint. Alors Gilles, si j'ai quelqu'un à blâmer ce matin pour les fautes, hein, c'est clair. Alors, Genèse chapitre 1, excuse-moi, Genèse chapitre 16, le verset 1 à 16, je vais demander à mon frère Joël de lire ce texte ce matin. Et moi, qu'est-ce que je vais vous demander? C'est de suivre avec attention ce texte que nous allons lire ce matin, parce que c'est dans ce texte-là qu'on va s'attarder ce matin. Donc, je vais demander, si vous n'avez pas une Bible, j'aimerais vraiment que vous suivez le texte, votre voisin, sinon écoutez attentivement. Alors, je vais demander à mon frère Joël de lire ce texte.
Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. » Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour la femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. » C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El Roy, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Chaï Roy. Il se trouve entre Kadès et Bared. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci l'appela Ismaël. Le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna le nom d'Ismaël.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Joël. En lisant l'histoire comme nous venons de le faire ce matin, en fin de compte, l'histoire c'est plutôt un résumé d'une histoire réelle qui s'est passée. Et cette histoire-là, en le lisant comme on vient de le faire ce matin, on a l'impression que tout se passe en accéléré. Tout se passe très vite, un peu comme quand on écoute la télévision et puis il décide de faire, comment je pourrais vous dire ça, mettre ça en fast-forward, là, OK? Puis ça va vite. Bien, et que ces gens-là, et le fait que l'histoire est courte et que ça va vite, on a l'impression que ces gens-là vivent cette histoire-là à la même vitesse. Ceci fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à jumeler le message de la parole de Dieu, donc l'Évangile, avec nos vies ici et maintenant. Parce que ça va vite. Le lien souvent ne se fait pas. En d'autres mots, on trouve ça très difficile de faire le lien avec ces vérités de l'histoire biblique où Dieu se révèle, ou une autre façon de le dire, ou tout simplement on pourrait dire entre l'histoire biblique et la théologie, donc où est-ce que Dieu se révèle, et nos souffrances au quotidien, c'est-à-dire dans nos vies de famille, dans nos vies de travail, dans nos vies de loisirs et dans nos réunions d'église. Vrai ou faux? Je suis sûr que c'est vrai, parce que je ne suis pas différent de vous là, ce matin. Là. Okay? Ça va vite, on lit ça, puis on lit ça comme qu'on boit de l'eau. Tu sais, l'eau, là, c'est pas compliqué. On boit de l'eau, on lit l'histoire, pas de lien. Aucun lien. Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment réconcilier la présence dans nos vies du Dieu réel que nous aimons? Parce que je sais que vous aimez Dieu. Parce que la preuve, c'est que vous êtes ici ce matin. Il y en a qui vont dire, « Oui, mais je ne sens pas Dieu. » Oui, mais ça, là, il ne faut pas croire ces petites phrases mensongères, là. Vous aimez Dieu. À qu'est-ce que je sache? Je ne pense pas que Gilles Follet vous a appelé ce matin pour vous dire, « Il faut que vous soyez là ce matin, là. » Vrai ou faux? C'est-tu vrai? Tout à fait. Donc, vous aimez Dieu. La preuve, c'est que vous êtes ici. « Oui, mais Jean, ma vie est à l'envers. » Ce n'est pas grave. Vous aimez Dieu. Alors, comment réconcilier la présence dans nos vies du Dieu réel que nous aimons et les souffrances réelles d'ici-bas? Au fond, la vraie question, là, c'est comment mettre en pratique l'Évangile dans nos vies? Parce que le challenge, là, le défi, là, c'est là qu'il est vrai ou faux? Vrai ou faux? Tout à fait. Là, vous êtes un peu gênés, là, vous ne savez pas. Soyez pas gênés avec moi, là, je vais vous faire participer, là, OK? C'est là qu'est le challenge. Il n'est pas à nulle part autre. Comment réconcilier notre vie réelle, comment réconcilier la présence dans nos vies du Dieu réel que nous aimons et les souffrances d'ici-bas? Alors, c'est par ces propres questions-là, dans ma propre vie au courant de l'hiver 2014, que Dieu m'a conduit. Parce que, en arrière de... Souvent, les gens me connaissent par mon beau sourire, là. Ils disent souvent ça, là. Okay. Mais en arrière de ce beau sourire-là, se cache quand même un homme souffrant. Se cache un homme comme vous, avec ses difficultés, ses combats. Alors, suite à ça, je me suis posé cette question-là. Comment réconcilier tout ça ensemble? Tu sais, quand on est jeune, on est pas tellement soucieux d'être ça, mais en vieillissant, il y a certaines choses qui nous rattrapent. Alors, comment réconcilier ces choses-là? Bien, il y a quelque chose qui m'a comme pop-pop, excuse-moi l'expression, là, mais dans la tête, là, c'est Genèse 16, 1 à 16, qui nous présente trois réalités. Qui nous présente trois réalités que nous allons méditer ensemble ce matin. Trois réalités qu'on va méditer ensemble ce matin. La première réalité qu'on va voir ensemble, quelles sont les circonstances particulières de cette vraie histoire? Deuxième réalité que nous allons voir ensemble ce matin, quelles sont les réactions réelles de ces personnes impliquées dans cette histoire? Et troisième réalité que nous allons vivre ensemble ce matin, il faut que je m'habitue à la technologie en même temps que je pense, que je parle. C'est dur pour un homme faire deux choses en même temps, là. Hein? Alors, on voit que les femmes y ont eu pensé, donc j'étais plus vite que vous, là. Alors, troisième réalité qu'on va voir ce matin, quelle est la vérité remarquable que Dieu nous révèle à travers ce court récit pour nos vies de famille, pour nos vies de travail, pour nos vies de loisirs et aussi dans nos réunions d'église. Bref, dans nos relations. Parce que c'est là qu'est le challenge. Moi, le lundi matin, là, si j'avais juste des ordinateurs, là, je serais au paradis. Là. Le problème, c'est quand je rencontre la première personne. OK? Vous comprenez? Bref, dans nos relations. Parce que des fois, on ne dit pas, on est chrétien, on ne dit pas. Mais c'est ça la réalité. C'est vivre avec les autres. Alors, ce que nous pouvons observer, nous allons regarder ensemble le premier point qui sont les circonstances particulières de cette histoire-là. Ce qu'on peut observer dans cette histoire, c'est que Saraï, femme d'Abraham, ne pouvait pas avoir d'enfant. En passant, là, ce matin, ça se peut, je me mélange avec Saraï, Sarah, Abraham. Leur nom n'avait pas encore été changé, là. Alors, j'espère que vous allez me pardonner ces petits écarts-là, là, parce que Sarah, c'est encore Saraï, puis Abraham, c'est encore Abraham, OK? Dans Genèse chapitre 16. Alors, ce qu'on peut observer dans cette histoire, c'est que Saraï, femme d'Abraham, OK, est arrivée à cette conclusion parce qu'elle était rendue à l'âge de 77 ans, donc rendue à la conclusion qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, parce qu'elle était rendue à l'âge de plus ou moins, là, okay, de 76-77 ans. Et la femme, qu'est-ce que la femme d'Abraham a fait? La femme d'Abraham avait une servante qui se nommait Agar. Voyant cela, elle dit ceci à son mari, verset 2. Okay, si vous avez une Bible, lisez là-dedans avec moi aussi. Verset 2. « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. » Donc, devant la souffrance qu'elle portait en elle, parce que c'était une souffrance réelle, ça faisait plus ou moins 50 ans là, qu'elle désirait cet enfant-là. Là. Comprenez? Plus ou moins 50 ans qu'elle avait cette intensité-là. Au fond, c'était un rêve brisé. 50 ans. Bon, Gilles disait que la semaine passée qu'il y avait plus que 50 ans. Bon, mettons que j'ai plus que 30 ans. 30 ans et plus, je devrais dire. Okay. Je ne sais pas c'est quoi avoir 50 ans du tout. Mais 50 ans, c'est long en titi, comme on dit au Québec, là. Hein? C'est pas vrai, ça? 50 ans de rêve brisé, il y avait une intensité dans sa souffrance. Donc, sa souffrance, c'était pas une souffrance, une petite souffrance, c'était une souffrance réelle. Et cette souffrance réelle-là, c'était la dure épreuve humiliante en tant que femme de ne pas porter un enfant dans son sein et perpétuer, donc c'est-à-dire continuer, l'héritage familial. Et il faut mettre ça tout ça en contexte, là. Il faut comprendre que c'était mal vu dans la culture de ce temps-là parce que cela signifiait une punition divine. Y en a-t-il parmi vous qui aimerait ça marcher dans la rue, puis quand on le voit, quand on te voit, là, on dit, c'est une punition divine, c'est une punition divine. Mais c'est ça qu'elle vivait. C'est ça qu'elle vivait, Saraï. C'était une souffrance réelle, c'était intense, c'était... Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'était tellement mal vu dans la société de ne pas avoir d'enfants, okay? C'était tellement mal vu dans cette société-là qu'au fil des générations, une coutume s'est installée. C'est-à-dire, selon la culture traditionnelle, donc selon la façon de faire en général, OK, ça, il y a une coutume qui s'est installée. C'est qu'une femme stérile pouvait choisir une autre épouse pour son mari. Ici, là, il y en a qui parlent d'une femme porteuse, d'une mère porteuse plutôt. C'est plus qu'une mère porteuse, là. C'est une autre femme pour son mari. C'est important quand on lit les Écritures. Il y a des mots super importants ici, là. C'est plus qu'une mère porteuse. C'est une autre femme. Et considérer les enfants que cette femme-là va avoir comme ses propres enfants. C'était la coutume. C'est l'histoire, c'est là-dessus que l'histoire est assise. L'histoire d'Adam, là, c'est assis là-dessus. OK? Ceci nous amène à la deuxième réalité. Quelles sont les réactions des personnes impliquées dans cette histoire-là, Quelles sont les réactions de ces personnes impliquées dans l'histoire? Regardez bien ça. Qu'a fait Saraï devant la souffrance réelle qu'elle vivait? Ça, c'est important, devant la souffrance réelle. Des fois, en tant que chrétien, on a tendance à minimiser la souffrance. Devant la souffrance réelle, OK, devant la souffrance réelle, quelle est sa réaction? Verset 2, lisons ça ensemble. Verset 2, le début du verset 2. « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, elle fait quoi? Elle blâme Dieu. » Dans l'édition, je vais vous raconter une petite histoire, là, un article. Dans l'édition de la presse du mercredi 5 août dernier, est apparu un article sur le terrible accident sur l'autoroute 50, sur l'autoroute 10 au Québec, qui a décimé une famille complète de 4 personnes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de cette histoire-là. Moi, j'ai lu ça cette semaine dans la presse. J'aimerais ça vous lire la réaction, ou du moins quelques réactions du père de l'homme décédé devant cette triste tragédie-là. Okay? Le reporter de l'article commence ainsi son article. Vendredi, qui était le 31 juillet, la terre a cessé de tourner pour Claude Dupuis. Claude Dupuis, c'est le nom du père, okay? De l'homme qui est décédé. Okay? Donc, la terre a cessé de tourner pour Claude Dupuis. Il était au travail quand il a reçu un appel de la police et au bout du fil, des mots irréels sont résonnés. Son fils venait de mourir dans un accident tragique survenu sur l'autoroute à la hauteur de Granby. C'est au travail, tu ne t'attends pas à ça, boum. Il apprenait plus tard, c'est pas fini là, il apprenait plus tard que sa bru et ses deux petits enfants avaient aussi péri. L'homme, la première réaction, il dit « Je suis tellement bouleversé. » C'est à s'y comprendre, hein? Et il racontait ça au journaliste, ça c'est après qu'il a dit ça, il est tombé en sanglots. OK? Quatre jours plutôt après l'événement, le père plutôt endeuillé avait toujours bien peu de mots plutôt pour décrire sa souffrance. Et là, le journaliste lui pose comme question, il dit qu'est-ce qui explique ça? Nous autres, on est maniaques en Occident de savoir pourquoi les choses arrivent. Un accident, ça ne se peut pas que ce soit juste un accident. Ça ne se peut pas ici, là. OK? Ça ne se peut pas. Alors, le journaliste lui dit, « Hey, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? » Le père, il dit, « Là, j'ai trop de rage. J'ai trop de rage et trop de peine pour penser à la cause, explique M. Dupuis. » Et là, le journaliste qui parle, il dit, Monsieur Dupuis espère maintenant que le sort s'acharne, Monsieur Dupuis espère maintenant que le sort s'acharne sur quelqu'un d'autre. OK, ça commence là. Hein? Alors, dans la dernière année, écoutez ça, c'est triste, là. C'est une triste histoire. Moi, j'ai lu ça, là, j'étais dans l'autobus, là, puis c'est venu me toucher. Je me suis mis à la place de M. Dupuis. Moi, j'ai deux magnifiques filles, et j'espère jamais recevoir un appel comme ça. Ah. Dans la dernière année, il avait perdu son père, sa sœur, sa mère et son beau-frère et son beau-père. C'est pas fini, là. À cette triste liste s'ajoute maintenant son fils et sa bru, sa petite-fille et son petit-fils. Le monsieur, il dit, ça fait beaucoup. Il dit, ça fait beaucoup. Il dit, j'ai enterré à cette personne, a-t-il laissé tomber, nous dit le journaliste, la voix brisée par l'émotion. Et là, monsieur, il parle, le monsieur Dupuis, il parle. Il dit, là, j'espère que le petit Jésus, écoutez bien ça, là, OK? Il dit, là, j'espère que le petit Jésus va nous laisser tranquille, ma femme, ma fille et moi. C'est la faute à Dieu. Verset 2. Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter. Saraï fait la même chose. Elle blâme Dieu. Ben, je le sais, là, hein, probablement, il y en a qui disent, oui, mais bon, Jean, là, attends une minute, là. Dieu, là, il donne puis il enlève tout ça. C'est vrai. Mais le reste du verset 2 nous explique la pensée, nous exprime la pensée de Saraï. Regardez bien ça, on va le lire ensemble. Okay? Elle exprime la pensée de Saraï parce qu'elle nous montre qu'elle rend Dieu responsable de sa souffrance. Va donc, c'est ça le reste du verset 2, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par grâce à elle. Peut-être, grâce à elle, je vais avoir un fils. Non simplement, ça c'est important, là, parce qu'on lit le texte vite, hein, je suis comme vous. Là. Moi, si je ne m'étais pas arrêté, là, on lit ça vite. Okay? Non simplement, elle reproche à Dieu sa stérilité, elle va même jusqu'à prendre en charge le soulagement de son épreuve humiliante en jetant son mari dans les bras d'Agar, sa servante. C'est ça qui se passe. Au fond, c'est quoi qu'a fait? C'est quoi qu'a fait et Saraï? Elle s'est conformée aux habitudes normales de son époque. C'est la coutume, c'est la norme. Il y en a-tu ici qui se rappellent du poste de radio CKCH? Oui, hein? Tu te rappelles-tu? Je ne suis pas le seul jeune ici, là. N'oubliez pas, j'ai 30 ans, à peine 30 ans et plus, là. OK? C'est mon père est ici, c'est mon père qui m'a raconté tout ça, là, je vous raconte ça, OK? Alors... Chez les destins, mon père, il faut que je vous dise ça deux minutes. Là. Mon père, là, il nous a habitués à écouter la radio. Nous autres, on écoutait les games de hockey à la radio. Moi, j'ai acheté peut-être deux CD dans ma vie, là. Okay? Puis toutes les chansons chez de la culture française et la radio. On écoutait beaucoup la radio chez nous. Okay? Donc, ce qui explique mon illustration. Alors, CKCH. Okay? C'était quoi leur slogan, CKCH? Tout le monde le fait, fais-le donc. C'était ça leur slogan, OK? Puis aujourd'hui, là, quand on arrive devant un dilemme puis on parle à un ami, là, des fois chrétien ou pas, là, OK? Faut pas commencer à jouer au Saint-Saint, là, OK? Et on arrive devant une situation puis on leur dit, on peut pas faire ça. Il dit, ouais, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait, fais-le donc. On va confesser ensemble une chose ce matin, là. Je me mets dans le même bateau que vous, là, OK? On va confesser une chose ensemble ce matin, là, comme on dit au Québec, OK? N'est-ce pas ce que nous faisons devant nos souffrances réelles ici et maintenant? Nous faisons comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend à Dieu. On s'en prend à Dieu. Certains vont dire, je n'ai jamais dit que c'était de la faute à Dieu, j'ai jamais dit ça, peut-être. Mais nos actions crient le contraire. Puisque nous cherchons à manipuler la situation ou les situations en prenant les choses en main. Et ce genre d'attitude paraît très bien, en passant, là, ça paraît très bien dans notre société individualiste qui prône la valeur ou des valeurs d'indépendance, d'autonomie, de confiance en soi. Tu sais, c'est normal, là, de confiance en soi, de l'affirmation de soi. Tu sais, tu peux dire à l'autre, Qu'est-ce que tu penses? C'est pas grave. Tu t'es affirmé, c'est excellent. L'affirmation de soi. Bref, de se réaliser par soi-même. C'est la coutume. C'est la norme centrale de la culture occidentale en ce début du 21e siècle que nous vivons dedans. Tout le monde le fait, fais-le donc. Pourtant, plus ou moins 10 ans auparavant, Dieu avait promis à Abraham un héritage de ses propres entrailles. Parole de l'Éternel qu'il a cru, comme nous, comme moi. Cependant, devant l'offre de sa femme, il n'a jamais soulevé la conversation qu'il a eue avec Dieu. Jamais. On peut lire ses observations dans Genèse chapitre 15, je vous inviterai à lire ça chez vous. Okay? Il n'a jamais soulevé ça. Au contraire, l'auteur du texte nous rappelle 2 éléments extrêmement troublants. Très troublants. Premièrement, Abraham écoute la voix de Saraï. Deuxièmement, Saraï prit sa servante égyptienne, Agar, et la donna comme femme à Abraham, son mari. C'est extrêmement troublant, qu'est-ce qui se passe ici. C'est très troublant. Ainsi, qu'est-ce qui devait arriver? Arrivant, c'est-à-dire un ménage à trois est né. En plein milieu de ce triangle en forme manipulatrice, arrive un enfant. Pourquoi c'est arrivé toutes ces choses-là? Pourquoi que comme tout ça s'est arrivé? Eh bien, ça vient du fait d'avoir pris des décisions individualistes et égoïstes. Ce sont des choix de vie centrés sur mes besoins ici et maintenant. Sans prendre en considération Dieu, qui voit en passant Dieu devant qui nos vies sont dénudées, OK? Et en plus, sans prendre en considération non plus les effets collatéraux sur les autres. On s'en fout, c'est pas grave, je suis bien là-dedans, moi. N'est-ce pas trop souvent la triste réalité de nos vies? C'est la triste réalité de ma vie. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Ben, on répète toujours les mêmes erreurs. On cherche toujours le bien-être de soi. La souffrance que Saraï voulait soulager en manipulant les circonstances de sa vie n'a pas eu l'effet escompté. C'est l'inverse que cela a produit. Lisons, puisque nous lisons le verset 4, il dit, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Agar est devenue hautaine à l'égard de sa patronne. Chers amis, quand l'égoïsme là, se lève dans nos cœurs, dans mon cœur, l'orgueil, là, il est juste à côté de l'égoïste et nourrit mon cœur, et nourrit nos cœurs, et nourrit plutôt le cœur de tous ceux qui subissent les choix de nos mauvaises décisions. C'est pour ça que c'est une spirale. « Ah, c'est elle, c'est de sa faute. » Mais non, toi, tu es orgueilleux, toi, tu nourris son orgueil, puis boum. Nous pouvons arriver à cette conclusion, puisque les prochaines décisions seront marquées par le manque de jugement de tous les gens impliqués et blessés par ces conditions souffrantes-là. Observons le verset 5. « Alors, Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retomber sur toi, okay, qui m'est fait retomber sur toi, c'est moi-même qui a mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde plutôt avec mépris, que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » C'est quoi qui se passe? Mais Saraï se sent coupable. Saraï se sent coupable à l'intérieur d'elle-même. Elle dit, Dieu connaît mon cœur, mais pas juste ça, il dit tout en ajoutant là que son mari est responsable de sa souffrance. Dieu, mari, ça c'est pas pire là, OK? Que son mari est responsable de sa souffrance en disant Dieu connaît mon cœur. N'est-ce pas cette petite phrase mensongère qui se lève dans nos pensées quand Dieu nous convainc de pécher? C'est pas de ma faute. Dieu connaît mon cœur là, puis il sait que j'ai bien agi là-dedans. J'ai la paix de Dieu dans mon cœur. j'ai bien agi. Au fond, que croit Saraï? C'est quoi qu'elle croit Saraï, au fond? Bien, au fond, qu'est-ce qu'elle croit? Bien, elle croit que Dieu va l'aider dans sa culpabilité manipulatrice. Mais comment qu'on arrive à cette conclusion-là? Bien, c'est que ça se voit dans la haine qui se trouve dans son cœur. Ça se voit dans la haine qui se trouve dans son cœur. Et que répond Abraham à ça? Verset 6. Verset 6, Abraham, regardez bien qu'est-ce qu'Abraham dit, là. C'est fort, là. OK? En tout cas, il ne faut pas servir la Bible pour faire des cours de leadership, là, mais ça, là, c'est à ne pas faire en tant qu'homme, OK? Ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. Observons bien les réactions ici, OK? On lit ça vite fait comme ça, mais observons bien les réactions, OK, de ces circonstances particulières-là. Verset 6. Abraham, il fait quoi? Il se lave les mains. Pilate avant Pilate. Il se lave les mains. C'est comme s'il avait dit à sa femme, je n'ai fait que t'écouter, je t'avais juste écouté, moi, là, alors je te laisse faire selon ton jugement. C'est ça qu'il a dit à sa femme, je te laisse faire selon ton jugement. Quant à Saraï, elle a écouté son mari en traitant Agar selon ses valeurs, donc selon ce qui est bon à ses yeux, en donnant libre cours à sa haine envers sa servante. C'est ça qui se passe dans le texte. Libre cours à sa haine. Au fond, elle fait quoi? Elle se fait justice. Elle s'est vengée. Quant à Abraham, excuse-moi, quant à Agar, plus capable de faire face à ce triangle infernal, parce que ça n'est une triangle familial infernal, ça n'est une, OK? Elle s'enfuit devant la souffrance réelle qu'elle vivait. Et on ne peut pas la blâmer. OK? Elle s'enfuit. Cependant, en arrière de cette scène, nous pouvons voir des cœurs orgueilleux qui fuient, des cœurs orgueilleux, qui fuient devant la dureté de leur peine. Parce qu'au fond, là, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Personne ne prend leur responsabilité. Tout le monde fuit devant leurs circonstances réelles. Il ne faut pas oublier ce mot-là, devant les circonstances réelles de leur souffrance. Tout le monde fuit. Ces réactions de fuite devant la circonstance particulière souffrante de cette famille nous indiquent une chose. Nous faisons face à des personnes blessées. On fait face à des personnes blessées. Cependant, le problème de Saraï, le problème d'Abraham, le problème d'Agar n'est pas les blessures causées entre eux, quoique vraies et réelles, mais le problème n'est pas là. Quoique vrai et réel, OK? Ce qui complique la situation, ce qui est venu compliquer la situation, c'est le péché de chacun devant leur responsabilité. C'est ça qui est venu compliquer la chose. Saraï, regardez bien ça, observons ça ensemble. Saraï a écouté son cœur, et cela a guidé ses sentiments qui ont pris forme dans des émotions malsaines. Avoir des enfants là, est devenu tellement insensible pour Saraï, tellement excessive, tellement intense, tellement passionnée, que Saraï a fait une folie en donnant sa servante comme femme à son mari. Dans ce cas, nous pouvons avancer sans l'ombre d'un doute qu'avoir des enfants était devenu l'idole de Saraï. Abraham, lui, n'a pas communiqué la promesse de Dieu à son épouse et a suivi la tendance émotive de son cœur, tout simplement. Suite à son nouveau statut de femme d'Abraham, Agar, elle, c'est pas mieux, là. Elle a laissé l'orgueil grandir dans son cœur en oubliant son rôle de servante face à cette famille-là. Ce que nous voyons jusqu'à maintenant dans cette histoire-là, c'est qu'un péché non confessé, donc, non repentant engendre un autre péché, quand Dieu n'est pas écouté. Paul Tripp, dans son, co-auteur du livre « Nos relations des bénédictions compliquées », a déjà dit ceci. La repentance n'est pas le début de la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Voyez-vous, devant ces relations tordues, devant ces relations brisées, devant cette relation corrompue, se trouve une autre personne qui n'a pas été écoutée. C'est qui? C'est l'Éternel. Mais quand même présent, et ça j'ai aimé la prière de M. Alexandrien tantôt, quand même présent par sa fidélité à l'alliance faite à Abraham, Genèse chapitre 12. En d'autres mots, Dieu est souverainement réel dans nos vies par ses promesses. Ceci nous conduit plutôt à la troisième réalité de notre méditation ce matin. Quelle est la vérité que Dieu veut nous enseigner dans cette histoire-là? Que l'auteur nous rapporte dans Genèse chapitre 16. C'est quoi Dieu veut nous enseigner ce matin? Mais Dieu veut-tu nous enseigner de faire attention puis de prendre des bonnes décisions malgré nos souffrances? J'ai des doutes. Dieu veut-tu nous enseigner de contrôler nos émotions? Moi, je m'amusais avec mes étudiants en psychologie à leur montrer que c'était impossible. Travailler plus fort notre foi en Dieu, que Dieu vous bénisse. D'agir en bon chrétien obéissant, j'ai essayé toute ma vie. Certainement pas. Regardez bien la scène du verset 7 à 14, OK? Agar est allé chercher à étancher sa soif de justice et de bonheur, sous la route du désert, un chemin qui l'a ramené dans son pays originel, qui est l'Égypte. Chers amis, devant la dure réalité de nos souffrances, nos fuites nous conduisent toujours vers des sources épuisables sur les chaussées du désert qui aboutit toujours vers l'Égypte, c'est-à-dire vers l'esclavage. Nos blessures, c'est-à-dire nos cœurs confusionnels, déchirés par le péché, nous conduisent toujours et c'est toujours vers l'Égypte, vers l'esclavage. Ceci fait en sorte que nos vies tournent en rond. C'est le cycle pathologique, c'est le pattern, en bon québécois, là, c'est le pattern d'un cœur qui suit sa voie. C'est l'histoire de ma vie. Je parlais à une dame là, qui a vécu une névrose, tu sais là, une grosse dépression là, tu sais, un burn-out, un vrai là. Tu sais. Puis elle me disait, ça m'a pris 54 ans pour me rendre compte que je suivais mes voies. Quand on tourne en rond, un cœur qui suit sa voie tourne en rond. Pourtant l'Égypte, c'est un pays que nous avons laissé pour celui de la promesse, vrai ou faux? C'est ça qu'on a fait. Cependant, en prenant cette route désertique à la recherche d'une fontaine pour éponger nos envies de justice et de bonheur, nous remarquons que la souffrance de notre âme ne fait que s'accentuer, et ce, même si nous rencontrons des oasis, on remarque que ça n'arrête pas. Une autre façon de dire ça, là, nous sommes souvent à la recherche de quelque chose pour fuir nos souffrances. Et quand nous la trouvons, en peu de temps, nous sommes déçus. Mais cependant, et c'est ça qui est contradictoire, mais ça ne nous empêche pas d'être dépendants de cette déception-là et d'en faire des idoles. C'est la réalité de nos vies déchues ici-bas, peu importe notre arrière-plan. Peu importe d'où vous venez, là, peu importe. Ah, oh, moi, chez nous, ils ne buvaient pas. Bien, on fait toute la même affaire. Différentes formes, différents accents, différentes couleurs, mais on arrive tout à la même affaire. C'est exactement ce qui se passe ici au verset 27, au verset 7 de Genèse 16. L'ange, et on va lire, là, l'ange de l'Éternel. En passant, là, l'ange de l'Éternel, c'est la première fois dans la littérature biblique que cette expression apparaît. OK, l'ange de l'Éternel. Au verset 7. Okay? Donc, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Elle s'en allait vers l'Égypte, elle, là. Chour, là, c'est vers l'Égypte. Là. Okay? Mais l'Éternel, qui est présent ici et maintenant par sa fidélité à ses promesses, tend sa main, et ça, c'est là la beauté, tend sa main à ses enfants à la fois vacillantes. Dieu tend sa main aux enfants à la fois chambranlantes. Dieu tend sa main aux enfants à la fois instables. Dieu tend sa main aux enfants à la fois branlants. C'est qui ça? Ben, c'est nous, ça. C'est nous. C'est l'encouragement. C'est la splendeur du christianisme. C'est la splendeur du christianisme. Regardez bien ça. Au bas fond de sa souffrance, à travers son ange, Dieu parle à Agar et lui dit au verset 8, il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « J'ai pris la fuite loin de Saraï, ma maîtresse. » C'est remarquable qu'est-ce qui se passe ici, là. Ce qui est remarquable dans cette discussion, Dieu va directement dans la réalité présente d'Agar et ce, sans détour. Dieu lui dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Voyez-vous, c'est réel, servante de Saraï. Dieu n'a pas dit, « Hey, m'a blessé, où tu t'en vas, là? » Dieu, il dit, « Servante de Saraï, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de belles paroles mielleuses, il n'y a pas de mensonges. » Dieu nous parle d'où nous sommes dans notre situation réelle. C'est le Dieu que je connais, moi. En tout cas, c'est le Dieu que je suis en train d'apprendre à connaître, je devrais dire. Dieu nous parle où nous sommes dans notre situation réelle. Il dit, « D'où viens-tu? Où vas-tu? » Pas parce que Dieu ne le sait pas, mais ce que l'Éternel veut entendre de notre part, ce sont les confessions de notre état ici et maintenant. Et c'est exactement ce que Agar fait avec une précision. Et ça, là, c'est une précision étonnante comment qu'Agar répond à Dieu. Écoutez bien ça. Il répondit, regardez bien ça, c'est Agar, là, c'est la même femme, là. OK? Elle répondit, « J'ai pris la fuite loin de Saraï, ma maîtresse. » C'est incroyable, là. Elle n'a rien caché de sa situation. Elle n'a rien caché de son rôle, elle n'a rien caché de sa responsabilité, elle n'a laissé aucune place à l'excuse, contrairement à son attitude hautaine du début. Si Agar, là, admettons, là, si Agar avait resté sur sa position et ce peu importe les douleurs réelles de sa blessure causée par Saraï, ben, elle n'était pas fine, Saraï, là. OK? Si elle avait resté sur sa position et se peu importe les douleurs réelles de ses blessures causées par Saraï, elle ne serait pas moins en situation de péché devant Dieu et de ses patrons, parce qu'il n'aurait eu aucune confession, encore moins de repentance de sa part. Suite à sa confession honnête, Dieu n'enlève pas comme un bon Dieu l'état de sa souffrance réelle. Le Dieu souverain n'efface pas non plus l'injustice, parce que ça en est une, l'injustice causée par les mauvaises attitudes de Saraï et Abraham en disant, « Je vais te venger, ma fille. » C'est pas ça que le bon Dieu a fait. Au contraire, il lui dit, et là, c'est majeur. Moi, je vous dis, là je vous raconte pas des blagues, là, OK? J'exagère même pas, là. Ça, là, c'est majeur, ce que Dieu lui demande. Moi, après avoir lu ça, là, quand j'ai lu ça la première fois, là, j'ai reculé sur ma chaise, j'allais mettre de l'eau d'en face, j'ai dit, pour moi, il faut que je lise une autre Bible. OK? Regardez bien ça. Et c'est majeur qu'est-ce que Dieu lui demande. D'une perspective humaine brisée, ça n'a pas de bon sens. D'une perspective de l'homme, Jean Destin, déchéance humaine, là, ça n'a pas d'allure qu'est-ce que Dieu lui demande. Regardez bien ça. OK? C'est une femme, n'oubliez pas ça, gardez ça en tête, là. C'est une femme profondément souffrante dans son intérieur le plus profond, là. Je sais que je joue avec les mots ici, là. OK? Regardez bien, verset 9. C'est Dieu qui parle. Il dit, « Retourne chez ta maîtresse. » En passant, là, c'est pas le party qui s'en venait, là. C'est pas l'enfant prodigue qui s'en venait avec les bœufs. On va tuer, « Yeah, Saraï est de... » Pas Saraï, mais Agar est de retour, là. C'est pas ça, pas en tout, là. D'ailleurs, vous lirez Genèse, là, je vous dis ça des mémoires d'homme, là, Genèse chapitre 21. Ça finit pas nécessairement bien. OK? Après quelques années, du moins, ça n'a pas beaucoup changé. Regarde ce qu'il demande à Agar. Il dit, « Retourne chez ta maîtresse, humilie-toi devant elle, c'est-à-dire, » Dieu dit, « Retourne, humilie-toi devant elle, c'est-à-dire, fais demi-tour, fais-moi confiance dans la souffrance de tes blessures. » C'est ça que Dieu lui dit. « Fais-moi confiance dans la souffrance de tes blessures. Répands-toi. » C'est ça que Dieu lui dit. En réponse au Dieu souverain, Agar, il a dit, « Ben Seigneur, tu ne me comprends pas, là. Moi, tu saisis pas mon fort intérieur, tu ne saisis pas ma souffrance. » C'est pas ça qu'elle a dit. En réponse au Dieu souverain, elle se répand de son attitude égoïste et orgueilleuse en retournant chez sa maîtresse, sans aucune garantie autre, sans aucune garantie autre que les promesses de Dieu en sa faveur. Il y a une vérité là, fondamentale que Dieu nous révèle ici. Et cette vérité fondamentale-là, c'est que, mes chers amis, il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Il n'y en a pas, cherchez pas, il n'y en a pas. J'ai fait ça toute ma vie, puis je suis assez habile. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Il y a une... En tout cas, il y a une vérité c'est une vérité fondamentale, parce que c'est l'épicentre de l'Évangile. C'est l'épicentre de l'Évangile. C'est en même temps un christianisme, c'est en même temps une vérité du christianisme, une vérité pure et dure du christianisme, mais en même temps, c'est qu'est-ce qui fait sa beauté, sa sensibilité. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous, mes amis. Humilité, souffrance. Philippiens chapitre 2, Ésaïe 53, pour vous en nommer qu'eux autres, que ces deux passages-là. Okay? C'est exactement ce que Christ a fait afin de rendre possible notre relation avec Dieu et avec les autres. En d'autres mots, il n'y a pas de relation avec Dieu et les autres sans humilité, et ces relations-là se cultivent, se façonnent dans la souffrance. Quand on est marié, on le saisit un petit peu plus. OK? Après 28 ans, je commence à comprendre. Il n'y en a pas. Croire autrement. Si vous croyez autrement, là, c'est être déconnecté, c'est-à-dire disjoncté de sa propre réalité, de la réalité de ceux qui nous entourent. À vrai dire, là, c'est se condamner à vivre au rythme de ses blessures, comme si c'était une réalité sans espoir. Chers amis, la confession et la repentance précèdent la consolation du Dieu fidèle à ses promesses, et ce, dans les tremblements de terre les plus ravageuses et troublantes de nos souffrances. D'ailleurs, le verset 10, l'auteur ne nous le cache pas. Là. D'ailleurs, l'auteur nous rapporte au verset 10, il dit, « L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elles seront nombreuses. Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel, regardez bien ça là, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Dieu t'a vu dans ta souffrance. Ce qui signifie, en passant, le mot Ismaël signifie Dieu entend. Voyez-vous, c'est par ses promesses que le souverain Dieu console Agar et la réconforte en lui disant, j'ai vu et je t'ai entendu. Dieu, ce n'est pas juste un Dieu qui voit, ce n'est pas un Dieu passif qu'on a. Je t'ai vu et je t'ai entendu. Je suis au courant de tes blessures que tu as subies. Ce que nous voyons ici, c'est l'Éternel qui prend soin de sa fille par des paroles réconfortantes de ses promesses. C'est ça qu'on voit. Il faut toujours, chers amis, se rappeler que les promesses de Dieu sont continuellement. Il faut se le rappeler, il faut se le dire, là, parce qu'on a tendance à vouloir vivre Hollywood. Là, okay? Il faut toujours se rappeler que les promesses de Dieu sont continuellement données dans un contexte de monde déchu, c'est-à-dire dans une vie où l'injustice règne, c'est-à-dire des gens intraitables, des gens qui ne vont pas t'aimer, des gens, des situations incontrôlables, des déceptions, bref, un terrain miné de souffrance. Rappelez-vous, c'est la beauté du christianisme, pur et dur, mais en même temps, c'est sa beauté aussi, c'est sa sensibilité. L'auteur ne nous le cache pas, ça. L'auteur ne nous le cache pas. Et c'est ça que j'aime de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Dieu. L'Éternel ne nous le cache pas en parlant d'Ismaël qui va naître au verset 12. Regarde bien qu'est-ce qu'il dit, là. Il dit, en parlant de son fils, là, en passant, là, moi, je me fais dire ça, là, je ne sais pas, là, je ne croirais pas à l'avortement, puis tout d'un coup, j'aurai une envie. Regarde bien ça, là. Il sera comme un âne sauvage, en parlant de son fils qui va naître, là. Okay? Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il demeurera en face à tous ses frères. Ça va être la guerre, c'est ça que ça veut dire. Cependant, l'Éternel reste celui qui dirige l'histoire de nos vies, C'est ça que Dieu veut faire comprendre à Agar aussi. L'Éternel reste celui qui dirige l'histoire de nos vies à travers l'histoire de l'humanité qu'il gouverne. Rien ne lui échappe. Il connaît chaque étape de nos actions. Ainsi, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons l'adorer. En d'autres mots, l'Éternel peut être l'objet de notre foi en toute quiétude. Jésus-Christ est le calmant d'une vie agitée et troublée dans la souffrance. Et c'est ça, là, qui est difficile à accepter pour nous au quotidien. C'est difficile à accepter. La réalité des promesses de Dieu à travers la réalité de nos souffrances et ceux des autres, c'est difficile à accepter. Il faut se le dire, il faut se le confesser. C'est pas facile. Il y a des histoires d'horreur qu'on fait face, il y a des histoires d'horreur qu'on entend. Ça n'a pas de bon sens. Agar semble avoir saisi cette vérité fondamentale en observant ses paroles au verset 13. On lit, « Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Wayi, qu'a dit-elle, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? » Atta El-Wayi signifie « le Dieu qui me voit ». Okay, le Dieu qui me voit. Agar comprit que l'Éternel est un Dieu réel devant lequel sa vie réelle est étalée. C'est ça qu'Agar a compris. Dieu, c'est un Dieu réel devant lequel sa vie réelle est étalée. Au début, nous nous sommes posés comme question, la présence réelle de Dieu et les souffrances réelles ici-bas? Comment réconcilier ça? Comment mettre en pratique l'Évangile dans nos vies? Parce que c'est là qu'elle est le challenge. Je me répète, mais c'est là qu'elle est. Tout simplement en s'humiliant devant sa présence souveraine, réelle, en vivant par la foi les circonstances réelles de ma vie au son de ses promesses. Tout simplement. Dieu réel et souffrance réelle sont deux réalités coexistantes dans les promesses de l'Évangile. C'est deux réalités coexistantes. Voilà le réconfort absolu devant la douleur de nos souffrances. Il n'y en a pas d'autre réconfort. Cette semaine, je vais boire une gorgée d'eau avant, là. J'ai des petits moments de dépression. Ça paraît pas, vous voyez toujours en grande forme, toujours le sourire, confiance en la personne que je suis. Mais cette semaine, là, depuis le mois de septembre 2015, là, j'ai des petits moments de même, là. OK? Et puis, parce que je remarque que toute ma vie, j'ai tourné en rond. Il y a des péchés qui me rattrapent. Il y a des choses que j'aurais dû faire. Il y a des choses qui me rattrapent. Puis c'est dur de faire face à ça. Puis là, tu es obligé. En tout cas, je me suis mis à écouter la chanson qu'on a chantée un matin. Là, quand tu vieillis, ton éternel. C'est ça. Savez-vous quoi? Ça m'a fait du bien, mais ça m'a ramené aux promesses de Dieu pour ma vie dans la souffrance. C'est ça que ça fait. Il faut se confier dans l'Éternel, dans les promesses de Dieu, parce que c'est là qu'elle est le réconfort absolu. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est une personne réelle, et cette personne-là a un nom, c'est Jésus-Christ, qui travaille dans la vie des personnes réelles, avec des souffrances réelles, à cause de ces promesses réelles du Dieu vivant. Et du Dieu vivant, ben Dieu mérite d'être écouté. Parce qu'elle est la source. Les promesses de Dieu sont la source de ma relation avec lui et de toute autre relation humaine. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles dans vos cœurs ce matin.